away from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Elle vit à la fois fébrilement et tranquillement entre plusieurs mondes. Sandrine Mansour-Mérien, née au Koweït d'un père palestinien et d'une mère française, vit avec une nécessité historique au cœur. Docteur en histoire et chercheur au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de Nantes, elle pose sur la table une question sensible que médias et politiques ont du mal à faire entendre, qui donne l'histoire occultée des Palestiniens entre 1947 et 1953. Livre événement paru aux éditions Priva qui évoque l'exode forcé des Palestiniens en mai 48 à la lumière d'archives récemment ouvertes et de textes d'historiens tant palestiniens qu'israéliens.
بكوب الشراب المرصع بالازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها.
Bonjour Sandrine Mansour-Mérien.
Bonjour.
En sol majeur vous accueille donc avec la poésie de Mahmoud Darwish, avec le trio Djoubran. C'est une poésie, celle de Mahmoud Darwish, qui ouvre votre livre d'historienne sur ce vers. Je suis d'ici et je suis là-bas, et ne suis ni ici ni là-bas. Je jetterai tant de roses avant d'atteindre une rose de Galilée. Pourquoi ce vers en particulier ?
D'abord, c'est un poète que j'adore et qui berce, je pense, beaucoup de monde sur la planète, au-delà de son côté palestinien, et ça c'est important de le dire. Et là, il montre bien ce côté, ce qui me ressemble un peu, en fait, je trouvais, de double appartenance, d'exil, ça dit beaucoup l'exil. Ça parle de la Galilée, donc on a forcément des images, il parle de la rose, donc on a le végétal qui vient. On est finalement de partout. Et en même temps de nulle part, c'est-à-dire qu'on peut s'accrocher à n'importe quelle rose ailleurs.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les historiens sont mieux armés que les poètes pour faire entendre la petite musique palestinienne ?
Aujourd'hui, oui, leur rôle est primordial parce qu'en fait, ils ont aujourd'hui une reconnaissance scientifique évidente. Et aujourd'hui, on est dans le règne de scientifiquement, on doit prouver que les choses ont lieu ou ont eu lieu. Par contre, la poésie est atemporelle. C'est évident que le poète sera toujours là, avec des hauts, des bas en fonction des périodes et surtout en fonction des lieux. En France, on n'est pas très porté sur la poésie de manière populaire. Par contre, dans le monde arabe, c'est omniprésent. Quand on se retrouve à une soirée, on va chanter les mawal, ces poèmes improvisés, on va redire des poètes, de poètes connus. Donc ça dépend aussi des lieux où nous sommes.
Officielle.
Alors vous nous le rappelez, Sandrine Mansour-Mérien, il y a dans la version officielle du projet sioniste un slogan qui est bien connu, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et pour démontrer le contraire, vous retracez l'histoire de la Palestine sur la base d'archives. On voit qu'une nouvelle génération, enfin ça fait quelques décennies maintenant, d'historiens palestiniens et israéliens travaillent main dans la main pour revoir cette version officielle.
Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Palestiniens ont toujours raconté cette histoire, puisqu'ils ont été à la fois les victimes, les témoins de cette histoire tragique. Mais malheureusement, vous savez, la parole est toujours donnée aux vainqueurs, et c'est ce qui vraiment s'est passé dans ce cas-là. Et il y a eu toute une, ce qu'on peut appeler une propagande, avec des historiens officiels que l'État d'Israël présentait. À partir du milieu des années 80, il y a une génération d'historiens israéliens qui ont travaillé dans les archives de l'État d'Israël et qui ont non seulement confirmé ce que disaient les Palestiniens, mais apporté des preuves à l'appui scientifique avec des dates, des chiffres, des événements bien, bien marqués. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on est toujours dans un contexte où la propagande est plus forte que les faits. Et c'est ce à quoi s'acharnent les historiens, c'est à déconstruire ce contexte-là pour ramener les faits dans leur réalité et dire aux gens, voilà, ce qui s'est passé, au plus juste d'une vérité historique.
Donc, preuves et archives à l'appui, vous nous rappelez qu'avant 48, il y avait bien un peuple sur cette terre palestinienne, et vous décrivez même, jusqu'à l'arrivée des Britanniques, une Palestine économiquement et politiquement dynamique.
Oui, tout à fait. C'était une région très riche. Et d'ailleurs, dès la fin du 18e, on voit beaucoup d'Algériens sont venus s'installer en Palestine parce que il y avait une économie importante. Et en plus, l'Empire ottoman, qui a été certes très lourd et autoritaire à sa manière, il n'empêche que l'Empire ottoman était un vaste empire sans frontières. Il n'y avait pas de frontières pour aller de la région syrienne à la région libanaise, en passant par les autres régions. Et dans ce carrefour, c'était une région assez dynamique, parce qu'il y avait d'abord les accès avec les ports, donc il y avait vraiment un dynamisme économique, la naissance de petites industries.
Donc une voilà. Presse aussi en bonne santé.
Une presse très dynamique très tôt, dès 1908, on voit l'apparition de presse très importante. Vraiment une vie citoyenne et politique importante.
Alors, vous avez travaillé non seulement sur des archives, mais aussi sur des témoignages, comme dans le documentaire « La terre parle arabe » de Maryse Gargour, auquel vous avez participé, Sandrine Mansour-Merien, en tant qu'historienne. Et vous avez ensemble, par exemple, recueilli la parole d'Abdulaziz Halil, du village de Beit Gabrin, qui pose le problème de la terre.
Je suis palestinien de souche. Mes parents sont palestiniens. Mon père est palestinien. Mon grand-père était palestinien. Depuis 10 000 ans, je suis palestinien. De Beit Gabrin. Mon père et mon grand-père étaient des agriculteurs. Ils plantaient du blé, de l'orge, du maïs, des légumes. Nous avions également beaucoup de moutons. Notre métier se transmettait de père en fils, et il est le même depuis toujours.
Agriculteur, un métier qui se transmet de père en fils en Palestine, et dans le projet de foyer sioniste qui mûrit dès le 19e siècle dans la tête de Théodore Herzl, le premier problème qui se pose, c'est celui de la terre. Comment faire? Car les Juifs d'Europe, eux, ne sont pas des agriculteurs.
Oui, les archives le montrent pleinement. C'était un véritable problème, puisque les premiers sionistes qui viennent s'installer début 20e siècle en Palestine ne sont pas du tout agriculteurs, ne savent pas travailler la terre, ce sont des citadins. Et donc, ils vont fonder des écoles d'agriculture pour essayer de former les gens à l'agriculture. Il va y avoir tous les projets de kibbutz aussi pour développer sur le terrain agricole des unités de villes, mais en réalité la majorité vont retourner dans les villes. Ils n'ont pas cette culture, et ça va être très difficile pour les sionistes de s'accrocher, même s'ils vont essayer, pour utiliser cette image et la vendre en Europe, entre autres, de montrer que c'est eux qui ont développé l'agriculture.
Mais vous diriez que les sionistes cherchaient une terre quelle qu'elle soit?
Tout à fait. D'ailleurs, Herzl le dit clairement dans son livre. On était en plein développement des mouvements nationaux en Europe. Donc c'était la montée des nationalismes, donc de la mise en place d'états-nations au sens fort. Et les Juifs qui commencent à être persécutés au 19e siècle en Europe se posent à juste titre cette question. Est-ce que l'on doit s'assimiler et s'intégrer comme on l'a été jusque-là, mais dans quelles conditions? Ou doit-on penser une nation à nous par rapport à notre religion. Et donc, ils vont émettre plusieurs projets. Ils vont penser à l'Ouganda, ils vont penser à l'Argentine. Donc, l'objectif, c'était une terre et non pas un projet autour de la religion en tant que telle. Quoi,
mais il y a eu même des terres au Liban qui ont été achetées dès 1917, c'est ce que vous me confiez.
Exactement. En fait, j'ai découvert ça dans les archives diplomatiques françaises que j'ignorais. Et en fait, les sionistes... En 1917, ils envoient un projet aux Britanniques, aux Français, qui étaient les deux grandes puissances de l'époque, en disant, ben voilà, l'Empire Ottoman est sur le point d'être partagé entre les grands, nous voulons notre part de gâteau, en quelque sorte, et donc ils ont envoyé un document avec une carte, et pour chaque nom de pays, une explication par rapport aux ressources qui étaient intéressantes, et donc ils réclamaient le Liban, ils réclamaient la Syrie, ils réclamaient la Transjordanie, donc c'était la Jordanie de l'époque, la moitié du Sinaï, la Palestine. Et bien sûr, au départ, les Français et les Britanniques ne répondent pas tout de suite. Et finalement, bon, leur explique que ça va pas être possible, qu'eux-mêmes veulent s'accaparer une partie de ces pays pour les mandats. Et donc, les sionistes ne vont pas s'arrêter là. Ils vont donc acheter des terres. Et j'ai découvert qu'ils avaient acheté énormément de terres au Liban. Et puis, les Français, au bout d'un moment, vont se rendre compte que c'est pas tout à fait à leur avantage. Ils ont peur que ça devienne trop important. Ils vont donc élaborer une loi qui va empêcher l'achat de terres de manière importante. Et là, ils vont utiliser des personnalités libanaises et j'ai découvert qu'en fait, tous les clans religieux libanais ont vendu des terres aux sionistes, jusqu'au milieu des années 40.
Donc ils ne sont pas à la conquête prioritairement de ce qu'on appelle la terre sainte. Les juifs qui faisaient donc la promotion de ce foyer juif, est-ce que vous diriez qu'ils étaient majoritairement des laïcs ?
Ah tout à fait, c'est clair qu'au départ le mouvement sioniste est un mouvement laïque. Ils se sentent d'abord allemands, ils se sentent polonais, ils se sentent plutôt européens dans ce sens-là et juifs en second. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que je suis tombée sur des rapports du mouvement sioniste qui explique dans les années 1920-1925, ils sont catastrophés parce que les juifs d'Europe ne sont pas religieux, ne travaillent maintenant le Shabbat, ils se marient avec des non-juifs, etc. Donc en fait, il y a une perte du sentiment, enfin en tout cas de l'appartenance religieuse, et donc du coup, ils sont en train de s'assimiler un petit peu comme les chrétiens, etc., dans un contexte d'abord d'européanité. Et donc c'est effectivement pas la Terre Sainte en tant que telle qui les intéresse, mais le fait d'avoir un projet pour les réunir. Et ils vont donc, dans un deuxième temps...
Instrumentaliser la Bible.
Exactement.
Instrumentaliser la Shoah aussi, vous diriez ?
Ça, ce sera dans un autre temps, plus tard, pour justifier la guerre de 67.
Suite de cette conversation entre l'histoire occultée des Palestiniens 1947-1953 et la terre par l'arabe.
Zionism. Say Zionism is about transfer. You transfer the Jews from Europe to Palestine.
Comme.
And you transfer the Arabs.
Déracinement.
Ben Gourion définissant le sionisme ainsi, le sionisme c'est le transfert, on transfère des juifs d'Europe en Palestine et on transfère des arabes, fin de citation. C'est donc la réponse à la question comment les palestiniens sont-ils devenus des réfugiés, Sandrine Monsouris.
Exactement, ça a été une véritable opération de transfert, pensée dès le début, parce qu'ils avaient tout à fait conscience que cette terre était largement peuplée. Donc très tôt, ils sont obligés de se poser cette question, dès d'abord la fin du 19e, et puis après d'élaborer des schémas en fait. Donc ils vont élaborer bien sûr tout ça dans des réunions secrètes, bien évidemment, puisque d'un point de vue officiel, ils disent qu'ils veulent collaborer avec les Palestiniens, s'installer avec eux, rester avec eux.
Double discours et de la part des sionistes et de la part des Anglais.
Tout à fait. En fait, les Anglais sont très contents de se débarrasser des Juifs, parce qu'il faut vraiment bien marquer l'idée qu'on était dans la montée de l'antisémitisme en Europe, et que ce n'est pas par bonté et volonté de soutenir le projet sioniste en tant que tel, même s'il y a eu quelques personnalités qui l'ont fait dans ce sens, mais c'était véritablement on se débarrassait des Juifs d'Europe de cette manière, en leur donnant la Palestine. Et donc, au fur et à mesure, le projet s'élabore, et ils ont un véritable plan directeur. Il y a un comité de transfert transfert qui est créé. Et on sait que, parce que les Palestiniens, ils savent que de toute façon, ils ne vendront pas, même si quelques-uns ont vendu un peu de terre, c'était minime, et qu'ils n'arriveraient pas à acheter cette terre-là, que les Palestiniens ne la céderaient pas, et que donc il n'y avait qu'une seule solution, c'était de les expulser. Plusieurs projets, l'Irak, la Libye, en disant ce sont des pays arabes, et là on a toute une rhétorique qui a été reprise par les Occidentaux. On ne fait pas la différence entre un Libanais, un Syrien, un Marocain, etc. Ce sont tous des Arabes.
Ça, ce sont des éléments de langage que vous avez repérés, vous,
exactement,
en tant qu'historienne.
Exactement, ouais. Tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a de la place pour ces Arabes de Palestine. Ils ont plein de terres, nous n'avons rien. Donc nous, en tant que Juifs, ça va nous permettre de nous installer sur un petit bout de leur terre.
Alors, autre témoignage extrait de ce documentaire La Terre parle Aram, auquel vous avez collaboré. Témoignage recueilli auprès de Fatma Abdallah Ibrahim du village de Deir Aban, pardon pour l'accent. Elle se souvient, elle, du nom que les Palestiniens donnaient aux Juifs après 48.
Les Juifs, on les appelait la Haganah. Ils étaient sans pitié. Ils massacraient et tuaient. Ils ont commencé par Jaffa, Haïfa, Lida, Ramleh. Quant à nous, les jeunes, nous n'avions pas d'argent pour acheter des armes. On a fait une collecte et réuni 75 livres palestiniennes. On a acheté un seul fusil. Les jeunes ont commencé alors à résister. Les juifs nous bombardaient pendant des jours, nuit et jour. Ils nous bombardaient à l'aveuglette. Personne ne peut savoir ce que nous avons vécu. Les gens nous disent, pourquoi êtes-vous partis? Nous allions mourir. Soit on mourait, soit on partait. C'était la Haganah. Ils étaient sans pitié.
Alors on connaît bien ce mot de la Nakba, la catastrophe, mais on connaît moins celui de la Haganah, Sandrine Monceau-Mérien.
Donc la Haganah fait partie d'une des trois milices avec l'Irgun et le Stern qui ont été créées par les sionistes. La Haganah étant la plus importante au départ puisque officiellement elle devait protéger les colonies qui s'installaient, les kibbutz qui se mettaient en place, protéger les populations juives en fait. Et en réalité, très rapidement, on voit que c'est une structure militaire qui a pour but d'enrôler tous les juifs et de leur faire une formation militaire, donc femmes et hommes. Pareil, et que l'objectif c'est de véritablement monter une armée sur cet état de Palestine et dans lequel petit à petit les sionistes montent un véritable état dans l'état avec l'aval et l'appui des Britanniques.
À quel moment le transfert se transforme en expulsion et en opération militaire ?
En fait, à partir du moment où il y a la grande révolte de 1936, donc c'est la grande révolte et la grande grève, et 3 ans de grande révolte qui va être matée par les Britanniques, matée avec force. Les Palestiniens sont désarmés, non pas qu'ils avaient des armes extraordinaires, mais les armes qu'ils avaient donc leur sont confisquées, ils sont arrêtés, il y a beaucoup de peines de mort, et toute l'élite intellectuelle et politique est envoyée en exil. Il n'empêche, à partir de ce moment-là, les Britanniques commencent à tiquer. Ils ne peuvent plus rester sur place, ça leur coûte très cher. La deuxième guerre va aussi coûter très cher et ne pas permettre aux Britanniques de continuer à occuper la Palestine de cette manière. Et donc, les sionistes se rendent compte qu'ils ne vont plus peut-être pouvoir compter sur les Britanniques comme ils l'ont fait jusque-là. Et il y a aussi un petit revirement aussi, puisque les militaires qui sont sur place dénoncent le double jeu de la politique britannique aussi, en disant, il y a un moment donné, on n'est pas cohérent et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a le fameux livre blanc qui est sorti en 1939, qui est censé limiter l'immigration juive en Palestine, d'une part pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, puisque le pays ne peut pas absorber des milliers et des milliers de juifs qui arrivent d'Europe. Et donc là, les sionistes commencent à vouloir changer de cap et à la fois vont commencer des attentats contre les Britanniques qui sont en place et contre les Palestiniens. Et là, véritablement, le plan de transfert est élaboré avec précision et c'est ce qu'on appelle le fameux plan d'Alet qui va démarrer dès le lendemain du vote du plan de partage en novembre 1947 avec des précisions, comment on doit encercler les villages, comment on doit mettre le feu, comment on doit arrêter la population, comment on doit la chasser et avec comme comme maître mot dès le début, et ça c'est Joseph Weiss, le responsable du comité de transfert, qui le dit, et Ben Gourion également, il est hors de question que les Palestiniens que l'on chassera reviennent un jour dans leur pays.
L'histoire occultée des Palestiniens entre 1947 et 1953, une longue histoire très documentée que vous nous racontez, Sandrine Mansour-Mérien, docteur en histoire franco-palestinienne, qui revient en sol majeur dans 3 minutes.
Long way from home.
En sol majeur.
À l'heure où l'on parle sur tous les médias de réfugiés syriens, libyens ou érythréens, silence radio sur d'autres réfugiés, les éternels réfugiés palestiniens. Sandrine Mansour-Mérien, docteur en histoire et chercheur au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de Nantes, a de grosses lunettes, elle, sur le dossier. Et puis un livre qui ne sera sans doute jamais le livre de chevet du Premier ministre israélien. C'est dommage. L'histoire occultée des Palestiniens, 1947-1953, publié aux éditions Priva, ne plaira sans doute pas à tout le monde. Est-ce qu'on peut vous présenter comme une historienne qui lutte contre l'oubli, l'effacement, c'est-à-dire, et ça ne va pas très bien ensemble, une historienne engagée ?
Non, je pense que ça va très bien ensemble.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, l'historien est forcément engagé dans un travail pour construire et dire l'histoire. Bon, vous savez, il y a une phrase que j'aime bien dire, qui était celle de mon professeur Henri Laurence. Note de bas de page. Quand on est historien, on travaille toujours avec des références et des notes de bas de page. Donc, on n'est pas seul à penser.
Mais c'est pas n'importe quel travail que vous faites. Là, c'est sur la question palestinienne.
Alors, la particularité de la Palestine, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un dossier toujours chaud. La preuve en est, c'est comment dans les manuels scolaires c'est retranscrit, comment aujourd'hui on raconte cette histoire qui est toujours tronquée, occultée, parce qu'on considère que c'est un dossier chaud, les gens ne veulent pas s'engager là-dessus. Et donc dans ce sens-là, oui, c'est engagé. Effectivement, je prends entre guillemets des risques quand je parle de cette histoire. D'ailleurs, je ne suis pas accueillie et invitée partout. C'est un sujet dont on ne veut pas parler partout. Et pourtant, c'est essentiel. Et je pense que pour l'histoire géopolitique du monde, et en particulier du monde arabe, tant qu'on n'aura pas expliqué et résolu cette question d'abord par l'histoire, on n'avancera pas.
Nous avons passé la frontière et nous avons vu les champs de coton en fleurs. De voir ça, je me sentais, je ne sais pas. Je souhaite à chaque Palestinien de passer la frontière pour mourir sur cette terre. Nous sommes arrivés et avons vu la terre rouge. Les avocatiers portaient tant de fruits qu'ils devaient leur mettre des tuteurs pour ne pas qu'ils tombent.
M.
J'ai dit à ma mère qu'il n'aurait pas dû quitter la Palestine.
Comme.
Elle m'a dit, tu ne sais pas combien nous avons souffert.
Mythe du retour.
On le sait, on le redit, les autorités israéliennes excluent tout retour des réfugiés palestiniens, et ce en violation de la résolution 194 de l'Assemblée des Nations Unies. Et puis s'ajoute à cela, c'est ce que je lisais dans votre livre, page 50, Sandrine Mansour-Mérien, la loi sur les biens des absents votée par Israël en 1950, avec une petite subtilité de vocabulaire que vous soulignez, puisqu'on parle aussi des absents présents.
Oui, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je parle souvent de la question du vocabulaire qui est primordial par rapport à ce conflit, où bien sûr dans tous les conflits le vocabulaire est utilisé. Quand les Palestiniens ont été chassés de Palestine, il s'est posé la question de ceux qui sont restés quand même dans ce qui est devenu l'État d'Israël. Ils étaient de l'ordre de 125 000 à l'époque. Et qu'en faire ? Donc ils ont été sous administration militaire jusqu'en 1966. Et le problème, c'est qu'ils possédaient des terres qui intéressaient les Israéliens. Donc comment faire pour récupérer ces terres sans les chasser à nouveau et sans continuer l'expulsion ? Et donc de ce fait, ils ont créé cette notion de absent présent dans la mesure où ils les chassaient sur place, c'est-à-dire qu'ils restaient en Israël. Et pendant 3 ans, l'armée gelait les terres, ne s'en servait pas et décrétait qu'au bout de 3 ans, comme ils n'avaient pas été cultivés, l'État pouvait les récupérer. Donc ça a été une manière de récupérer la terre palestinienne à l'intérieur de l'État d'Israël appartenant aux Palestiniens qui n'avaient pas été chassés.
Alors vous devez bouillir, j'imagine, ou bondir intérieurement aujourd'hui quand vous entendez l'émotion internationale qui est justifiée quand on réfugie syrien, irakien, par exemple. Mais évidemment, plus un mot sur les réfugiés palestiniens. Combien est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans le monde ?
Aujourd'hui, selon les statistiques de l'ONU, ils sont plus de 5 millions. C'est la plus grande communauté de réfugiés dans le monde à ce jour. Aujourd'hui, ils sont répartis essentiellement à travers le monde arabe, mais également présents en Palestine. Vous avez des camps de réfugiés donc en Cisjordanie, des camps de réfugiés à Gaza. Ils sont dans une situation catastrophique à Gaza, au Liban. C'est extrêmement difficile pour eux là-bas. Vous avez des réfugiés aussi en Jordanie.
Catastrophique à Gaza, pourquoi ?
Parce que les réfugiés, d'abord la population, le territoire est tout petit, 350 km² pour 1 700 000 habitants, une densité énorme, des conditions épouvantables, d'autant que les différents bombardements ces dernières années et l'été dernier ont rendu le territoire et la métropole de Gaza dans une situation épouvantable et ils ne peuvent pas reconstruire. Ils sont dans une prison, ils n'ont pas accès à la mer, ils n'ont pas accès à la terre et donc les réfugiés sont dans des conditions insupportable là-bas et on n'en parle jamais.
Surprise, il y en a malgré tout dans cet ensemble majeur, en tout cas dans votre pochette surprise à vous, Sandrine Monceau-Mérien, il y a un mauvais garçon qui répond au doux nom d'Eminem. Eminem, ou comment le souffre-douleur des cours de récré est devenu un jour une vraie star, parce que c'est ça son histoire. Vous êtes fan d'Eminem alors ?
Je ne sais pas pourquoi cette chanson, elle me parle. Par ma biculture, j'ai aussi eu accès à la culture américaine puisque je parle l'anglais aussi américain depuis ma naissance et les États-Unis sont très présents au Moyen-Orient. Et c'est une chanson que j'aime bien chanter avec mes enfants et voilà, c'est ce clin d'œil-là, familial. Ass in the morning and taking names in the evening, leaving with the taste of sour with vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. Cleaning out my closet, c'est-à-dire, je sais pas, nettoyer devant sa porte, façon Eminem. Tout à fait, c'est ça, effectivement. En fait, c'est régler ses comptes un petit peu avec sa famille aussi, ça veut dire, donc c'était aussi ce côté-là par rapport à son histoire, effectivement, avec sa mère, sa famille, mais ça peut être interprété sous plein de différentes formes.
Un rap smooth, je dirais, qui va bien à Sandrine Monceau-Mérien, qui a de la géographie en sol majeur à nous raconter.
Je pense que je suis née sous une bonne étoile parce que je suis une optimiste, je pense, inconditionnelle, tout en étant très réaliste. En même temps, je suis née sous des étoiles où il y avait des chameaux, où il y avait la mer, le désert.
La carte postale,
c'est ça.
Pourquoi vous êtes née au Koweït ?
Parce qu'en fait, comme beaucoup de Palestiniens, mon père à l'époque, il était ingénieur, topographe, et il s'est retrouvé à travailler au Koweït, comme beaucoup d'ingénieurs palestiniens. Ils ont construit le Koweït.
Est-ce que vous êtes fille et petite-fille de réfugiés palestiniens ?
Tout à fait. Mon père a été chassé de Jaffa en 1948, au moment au fait où les sionistes avaient prévu de faire un gros massacre à Jaffa. Et les Britanniques ont participé en fait à l'évacuation de la population, puisque ce sont des soldats qui sont venus dire à la famille de mon père qu'ils allaient être massacrés, qu'il fallait qu'ils partent. Et donc ils sont partis, mais en pensant partir quelques jours, le temps que l'ONU ou que quelqu'un intervienne. Et malheureusement, ils n'ont pas pu revenir. Ils ont été donc réfugiés d'abord à côté de Ramallah, à Jaffna, puis après à Ramallah, après en Jordanie, et puis après donc au Koweït, et après en Algérie, après au Liban, après en Jordanie, après en Arabie Saoudite et après en France.
Est-ce que votre père vous a raconté sa vie en Palestine avant 48?
Oui, il l'a raconté beaucoup. Bon, il avait 11 ans quand il est parti, mais étant donné les événements, les souvenirs étaient très forts. Quand il est parti de Jaffa, il avait 11 ans, 13 ans de Palestine. Oui, tout à fait, on a grandi avec ça. C'était, j'allais dire, dans le lait du biberon. Et en même temps, on sentait une grande fierté de cette histoire et en même temps une grande peur. Je sais que mon père avait très peur. Alors on dit des juifs parce que ce sont des juifs qui les ont chassés. Hein, c'est pas du tout par côté négatif. Ils avaient peur des juifs parce qu'ils ont vécu cette expulsion de manière traumatique. Et en disant nous reviendrons. Et en plus l'ironie de l'histoire, c'est que dans ma famille, la maison familiale de Jaffa existe toujours. Elle est murée. Les terres ont été totalement prises. Donc ils avaient énormément de terres d'orangers et de citronniers. Elles sont devenues des routes. Il y a une station essence à côté de la maison. Mais la maison est toujours là. Et ça, je pense que ça participe aussi au fait que de dire un jour nous reviendrons.
Et peut-être à votre démarche d'historienne quand même.
Oui, tout à fait.
Et alors vous, comme je disais, vous avez vraiment beaucoup de géographie en vous. Donc le Koweït au départ, l'Algérie de 68 à 71, Beyrouth jusqu'en 75, la Jordanie, et puis l'Arabie Saoudite. C'était comment la vie là-bas ?
Terrible, horrible. Je n'aimais pas du tout l'Arabie Saoudite. J'étais jeune, adolescente à l'époque, et on y était pour le travail de mon père, encore une fois. Et en plus, on était à Riyad. Riyad, c'est très fermé, donc vous savez, pas de tourisme, beaucoup d'interdictions. Moi, j'appelais ça « terre des hommes », puisqu'il n'y avait aucun droit pour les femmes. Catastrophique, d'un point de vue droit humain. On savait, par exemple, les jours où ils lapidaient, les jours où ils coupaient les têtes, où ils coupaient les mains sur la place publique, il fallait pas aller en ville, puisque c'était public. Donc un grand sentiment d'insécurité dans ce pays tout puissant entre guillemets où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient et aujourd'hui
ce qu'ils voulaient jusqu'à parce qu'on sait que c'est un lieu où la prostitution se porte bien.
Il y a tout. Et c'était ça qui était le paradoxe. L'alcool est interdit, mais les plus grandes caves de vin sont en Arabie Saoudite. Les princes ont des caves extraordinaires. C'est l'adage, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Donc vous êtes folle de joie de voir que la France et les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite?
Exactement. Ça fait partie des grands scandales qu'on ne dénonce pas assez dans les médias aujourd'hui, puisque il faut savoir que c'est eux qui financent en plus tous les groupuscules les plus intransigeants et comme Daesh ou ISIS, etc., sont financé par ces États-là. Et en même temps, on a un discours qui correspond pas, parce qu'on dit qu'on prône la démocratie partout, et c'est tout, bien évidemment, sauf de la démocratie. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on peut être cohérent vis-à-vis des populations arabes quand on vend des armes à gogo à ces pays-là, et qu'on leur déroule le tapis rouge quand ils viennent en France, et où ils font d'ailleurs des frasques en général qui ne sont pas recommandables, et qu'en même temps, voilà, on n'est absolument pas critique vis-à-vis d'eux.
Parler de la Palestine, vous n'allez pas vous faire que des amis, vous, hein, je sens. Sans croiser Yasser Arafat, c'est pas un scénario digne de vous. Donc, on a une petite lichette de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. C'était le 13
novembre 1974. Je suis un rebelle. La liberté est ma cause. Vous êtes nombreux dans cette salle à avoir connu dans le passé la même situation que moi. La position de résistance dans laquelle je suis et dans laquelle je dois lutter. Vous aussi, vous avez dû vous battre pour faire de vos rêves une réalité. Aujourd'hui, vous devez partager mon espoir. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis venu à rameau d'olivier dans une main, un fusil de combattant dans l'autre. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Ne le laissez pas tomber. Ne le laissez pas tomber.
Il est super ce discours, me soufflez-vous à l'oreille Sandrine Mansour, mais rien. Il est jeune, mais il est quand même agressif et voire menaçant, non, Yasser Arafat à ce moment-là?
Il n'avait pas le choix. Il faut savoir que dès le lendemain de la résolution préconisant le vote du plan de partage, les Palestiniens ont été écartés de toutes les discussions politiques. Ils ont été littéralement écartés. Ils ont essayé de se rendre comme ils pouvaient dans les réunions onusiennes, en passant par la fenêtre, en passant par les couloirs, mais ils n'avaient pas accès à la grande porte. Et quand finalement Arafat arrive à l'ONU et peut s'exprimer, il n'a d'autre choix. Mmh. Il y a eu la guerre de 67 avec une deuxième expulsion. Donc on est dans des conditions catastrophiques. Et c'est intéressant parce que après ce discours, il y a eu le vote quelques mois plus tard, en 75, d'une résolution assimilant le sionisme à du racisme.
Ah oui.
Et cette résolution est vraiment fait suite parce qu'il y a eu, je pense, une prise de conscience. Enfin, bien évidemment, à l'ONU, ils savaient. Mais une prise de conscience politique actée, et donc cette résolution a été votée et elle a été valable jusqu'en 1991, ironie de l'histoire, jusqu'au moment de la conférence de Madrid. Et pour venir s'asseoir à la table avec les Palestiniens et les Jordaniens, les Israéliens ont exigé qu'elle soit abrogée.
Alors ça, c'est l'historienne qui commente ce discours de cette manière-là. Mais à l'époque, quand vous étiez une jeune fille franco-palestinienne ou palestinienne, d'ailleurs, je ne sais pas quel passeport vous... Enfin non, vous avez le passeport français ?
Un passeport français et un passeport jordanien.
D'accord. Quel effet vous faisaient les déclarations d'Arafat, vous qui étiez en exil permanent ?
En fait, en 74, j'étais au Liban et je me souviens très bien de l'entendre à la télévision. Et ça nous portait, et à la fois on avait l'impression comme de la science-fiction en fait, comme l'effet de voir quelque chose. Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que c'est vrai ce qu'on entend ? Est-ce qu'on va pouvoir enfin voir nos droits reconnaître ? C'était ça en fait l'effet que ça nous donnait.
Je sais que vous êtes beaucoup sur le terrain, vous donnez des conférences un peu partout dans le monde sur cette question palestinienne, et vous allez même œuvrer, vous impliquer sur le terrain en Palestine. De quelle manière ?
Je travaille, j'accompagne depuis de plusieurs années des institutions françaises notamment qui ont décidé de faire une coopération décentralisée avec la Palestine. En l'occurrence, là depuis 3 ans, j'accompagne le conseil départemental de Loire-Atlantique qui avait décidé, son président Philippe Grosvalet, dès le début de son mandat, il souhaitait faire une coopération avec la Palestine parce qu'il s'y était rendu en 82. Il avait rencontré Yasser Arafat. Et comme je dis souvent, il y a un avant et il y a un après. Quand vous allez là-bas, vous ne revenez pas tout à fait de la même manière. Et donc, ils ont une coopération avec une municipalité qui est Marche Ben Hammer dans le gouvernorat de Jenin. Et je les accompagne donc sur tous les projets très, très...
Concrets, par exemple.
Donc là, il y a eu la construction d'un centre de pompiers. On leur a envoyé un camion de pompiers. Il y a mise en place de cours de musique avec une école de musique de Jenin, El Kamanjati. Il y a des cours de français. Autrement que concret, c'est une volonté politique de ces institutions. Il faut savoir que la France est le pays qui a le plus de coopération avec la Palestine. Il y a 100 coopérations entre des institutions françaises et la Palestine. Mais l'Europe est présente, la Belgique est très présente également. Il y a beaucoup de pays qui ont une coopération, en sachant que les États-Unis n'ont aucune coopération.
Alors, je ne sais pas si en faisant tout ce travail, toute cette démarche autour de l'histoire palestinienne et du drame palestinien, on a pu vous taxer d'antisémite. Je suppose que ça a pu arriver, mais il est justement utile de savoir que vous admirez le travail d'un Ilan Pappé ou d'un Navi Shlaim, ce sont des historiens israéliens, et vous admirez également des cinéastes, l'image est importante pour vous. Un cinéaste comme Eyal Sivan ne vous laisse pas indifférente. Dans Jaffa, la mécanique des oranges, il raconte comment le gouvernement israélien a confisqué les orangeries et s'est approprié l'orange de Jaffa. Et il soumet des archives et des films de propagande au regard, par exemple, de l'historien israélien Amnon Ratz-Krakotskin.
This is the land which God promised to Abraham.
Voilà la terre que Dieu a promise à Abraham.
Once, while the Jews lived in this land, it was the center of a great civilization.
Jadis, quand les Juifs vivaient ici, la civilisation était florissante.
When the Jews were driven out, the land gradually declined. Primitive life returned.
Quand les Juifs furent chassés, la terre a peu à peu dépéri, la vie sauvage a repris le dessus.
Les Juifs ont été chassés, hein? C'est toute la question. Les Juifs ont-ils été chassés? Ce n'était pas une idée juive à l'origine. Les Juifs n'ont pas été chassés, ils ont quitté leur pays. C'est un mythe d'origine chrétienne. Il était fondamental pour le christianisme de soutenir que les Juifs avaient été chassés, car c'était la preuve qu'ils avaient perdu leur droit d'aînesse et que la chrétienté était le vrai Israël. Plus tard, les Juifs ont repris cette histoire et l'ont intégrée à la vision sioniste. Nous avons été chassés, mais aujourd'hui, nous sommes de retour.
Sandrine Mansour, Mérien, que représente Jaffa pour vous aujourd'hui ?
Jaffa aujourd'hui, c'est une ville qui à la fois garde des petits bouts de son passé, mais en même temps qui est en train d'être transformée à une allure très rapide, en quelque chose de... Il y a d'abord une mobilisation très importante de la part de Juifs américains qui viennent s'installer à grand renfort de dollars, donc qui font partir les derniers habitants palestiniens, enfin qui habitent là-bas. Et mais en même temps, ça reste... Quand vous dites que vous venez de Jaffa à quelqu'un du monde arabe, ça résonne dans tous les cœurs. Parce qu'elle a vraiment été une étoile, une perle.
Et une perte.
Et une perte.
Ça restera une question peut-être jusqu'au bout de la nuit ou jusqu'au bout de votre vie, je ne sais pas d'ailleurs. Quel est votre pays ou votre ville première ?
Oui, c'est une question, c'est une grande question. Une ville qui résonne énormément en moi, c'est Jérusalem. C'est, alors que j'y ai pas vécu, c'est étonnant. Mais je pense qu'il a tellement été dans mon biberon que quand j'arrive là-bas, j'ai des résonances énormes, même si actuellement la ville est en train d'être totalement transformée et pas du tout en bien.
Judaïsée,
exactement. Oui, la judaïsation de cette ville qui la dénature. L'âme palestinienne doit lutter pour rester. Et c'est un vrai combat, plus le mur qui est en train de défigurer le pourtour de la vieille ville, la colonisation importante. Vous avez des colonies énormes comme Maale Adumim qui mangent littéralement la ville, le tramway qui est aussi pareil, serpente, enfin qui sur des terres palestiniennes. Enfin, donc tout cela, cette entreprise de judaïsation pour rendre Jérusalem juive, sont une menace sur son côté historique et cosmopolite et qui était tout à fait vivant.
C'est l'âme d'une chrétienne palestinienne qui est en train de parler, mais je pensais à l'emploi du « je » qui existe dans le monde arabo-musulman et qui empêche, qui est empêché, on va dire, par un « nous » collectif. C'est en tout cas l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur et vous me disiez non, que je me trompais.
Oui, parce qu'en fait, j'explique souvent que dans la langue arabe, il y a une particularité, c'est qu'on a le singulier, mais on a aussi le duel avant d'avoir le pluriel. C'est vrai que on a privilégié le nous et le nous deux, parce que historiquement, la langue arabe étant originaire du Yémen et du désert d'Arabie, les conditions de vie étant difficiles et dangereuses, il vaut mieux être deux et plusieurs pour survivre. Mais le jeu existe dans le monde arabe aussi quand même parce que...
Musulman ou chrétien.
Qu'on soit musulman ou chrétien, voilà, c'est il y a une identité. D'ailleurs, Mahmoud Darwish le chante dans le morceau que vous avez mis tout à l'heure. Il dit Anna. Il parle de je. Même si dans son je, il intègre son histoire pluriel, donc le nous. Il y a aussi l'autre chose, c'est qu'on marche de façon clanique. On est très, il y a une solidarité. Après, même si elle est en train de s'effriter aujourd'hui avec un monde qui change, mais elle demeure très importante.
Mmh. Pour que ce nous, et là je pense au genre humain et aux Arabes et aux Israéliens, pour que ce nous se consolide à nouveau, que cette paix réémerge à nouveau, Sandrine Mansour met rien. Est-ce qu'il ne faut pas deux conditions, c'est-à-dire peut-être que les Israéliens reconnaissent certains pans de l'histoire palestinienne, ce à quoi vous travaillez, mais que les pays arabes aussi rassurent Israël quant au bien fondé de son existence?
Je pense que ça, ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises. Quand en 1982, l'Arabie Saoudite a proposé qu'il y ait une reconnaissance totale de l'État d'Israël, de tous les États arabes, en échange de la libération des territoires palestiniens, c'était on ne peut plus clair. Et il n'y a pas eu de suite à donner. Parce qu'en fait, il faut quand même pas oublier que l'État d'Israël, pour l'instant, ne souhaite pas de paix. C'est le seul État membre des Nations Unies à ne pas avoir de carte attachée à son nom à l'ONU, puisque sa carte change en permanence. Il continue de manger la terre. Mais il y a une chose dont on parle peu et qui, à mon avis, est fondamentale, c'est la question de l'égalité. Il faut que les Israéliens comprennent que ils sont les égaux des Arabes et ils ne sont pas supérieurs. Et là-dessus, il y a un vrai travail à faire de leur part. Et je pense que le jour où ils accepteront de se penser en égaux et non pas en colonisateurs dominants, on aura fait un pas énorme.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Sandrine Mansour-Mérien, la pensée de Ben Gourion, Eminem, des extraits du documentaire La Terre par l'Arabe, et puis bien sûr votre livre, L'histoire occultée des Palestiniens entre 1947 et 1953, aux éditions Priva. C'est Chopin qui va refermer cet ensemble majeur avec Caroline Fidiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le comédien Vladimir Antsirevkov. À la semaine prochaine.